Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler de VR un petit peu et de jeux sur Macintosh. Oui, messieurs, dames, de jeux sur Macintosh. Et on va aussi parler de Diablo 4. On va lui faire une part un peu plus belle qu'à l'épisode précédent. Mais on va aussi parler de Street Fighter 6, évidemment. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, nous sommes le 8 juin 1923. 1900-2023, c'est un nouveau moyen de compter, ça se passe comme ça ici. Il n'y a pas de discussion, c'est moi qui décide. Et je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Escarina qui est... En fait, tu vis Diablo tellement à fond que tu t'imposes des supplices physiques pour vraiment faire le truc comme l'a pensé l'équipe de développement, c'est ça ?
Attends, je comprends absolument pas où
non,
tu veux
Je voulais faire une référence à, tes problèmes d'allergie. Que tu... Non ? Ça va pas ? Ça le fait pas ?
Du coup, j'ai pas compris
Mais les supplices physiques, parce que l'allergie, c'est difficile, tu vois pas, donc t'es dans le trip du truc diabloesque avec les démons qui...
Ouais, effectivement, j'ai les yeux injectés de sang, des plaques sur c'est la ça. Peau, ouais, ok, je vais bientôt faire venir un exorciste, ok, là, je commence à voir le lien, c'est bon. Non, mais ça va mieux, bon. Là, je suis sous traitement, c'est devenu quand même beaucoup plus vivable. Je te remercie.
Bon, clairement, je ne connais pas un succès incroyable aujourd'hui avec mon introduction. On va voir si ça se passe mieux avec notre deuxième co-animateur. C'est Sir Goupil, Pierre Le Goupil, qui se joint à nous, un grand habitué des podcasts, qui a fait une petite pause, mais qui revient spécialement pour moi, en fait. C'est ça.
C'est ça. Je t'ai dit, bonjour à tous. Exactement. C'est mon premier podcast depuis très longtemps. Donc, je suis peut-être un petit peu rouillé, mais je suis là au poste, au rendez-vous pour parler actu jeux vidéo.
Et notamment Diablo. Alors, tu peux nous dire qui tu es ? Tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, je suis Pierre Le Goupil, chef de rubrique gaming pour le site Phone Android, rubrique qu'on a lancée il y a quelques temps déjà, et donc forcément, on parle beaucoup jeux vidéo sur le site, même si le nom du site, c'est un petit peu bizarre de parler gaming sur le site Phone Android, mais voilà, on est là, on est présent pour parler jeux vidéo tous les jours sur le site.
Et tu as notamment testé Diablo, alors pas Diablo Immortal, on pourrait se dire Android, non, Diablo 4.
J'ai testé Diablo Immortal aussi en son temps, mais là, effectivement, le mois de juin est consacré à Diablo 4, parce que oui, il est là, on l'attend, ça fait des années qu'on l'attend, et il est enfin dispo.
Depuis quelques jours déjà. Alors la semaine dernière, il était en pré-accès le lendemain de l'enregistrement. On en avait parlé un petit peu, mais aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus. Et je voudrais, avant justement de commencer à parler de l'actu de la semaine, remercier Arnaud Blottière, Lynx Observateur, qui observe comme ça, il est là, il regarde hein, tout le monde. Et Nyandra Lades, qui sont les nouveaux patriotes qui ont rejoint l'équipe formidable du rendez-vous jeu depuis la semaine dernière. Et on a aussi Steph Sinalco, le producteur de cet épisode. Et à eux quatre, ils sont les quatre mousquetaires de cet épisode spécifique. Donc merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et on se lance tout de suite dans l'épisode numéro 297. Je ne vais pas faire le jingle avec la voix. On va juste commencer avec... Alors, on va parler un petit peu de VR, parce qu'il faut, parce que c'est l'actu. Mais il y a un truc beaucoup plus excitant encore dont je voudrais vous parler dans la partie Apple. C'est le jeu vidéo sur le Mac. Donc, on va y venir. Mais pour le moment, Meta a révélé son MetaQuest 3, qui est qui a juste été présenté, qui est le MetaQuest 2. Vous savez, hein, le Quest, c'est le casque autonome de Meta, de Facebook, qui est pas trop cher, même si c'est relativement cher. Celui-là sera lancé à $500. Il est beaucoup plus fin que le 2, qui était déjà relativement léger. Et le 2, d'ailleurs, baisse de prix, revient à son prix initial. Mais le 3 ne sera disponible que à l'automne. Donc, on en reparlera à ce moment. C'est vraiment un appareil qui est, on va dire, en théorie, dédié à plein de choses. En pratique, c'est un casque de gaming. D'autant plus qu'on peut le brancher sur un gros PC. Donc, on peut l'utiliser en autonome ou le brancher sur le PC et ça marche pas mal. Il y a des jeux qui ont été présentés. Le gros, on va dire, c'était Asgard's Wrath 2, qui est un gros titre de la VR, qui est... Le 1 était assez apprécié. Le 2, on imagine, sera de qualité aussi. Bon, voilà, c'est des titres de VR. Si vous aimez la VR, vous êtes super excité. Si vous aimez pas la VR, bah c'est pas ça qui va vous convaincre beaucoup plus, il faut être honnête. Il y a aussi Samba de Amigo. Donc si certains attendaient Samba de Amigo en VR pour se mettre à la VR, eh ben vous pouvez vous lancer dès sa sortie, sans doute en à l'automne. L'autre gros truc, c'est le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple, alors qu'il ne parle pas énormément de jeux vidéo, on le mentionne, mais c'est pas un truc sur lequel on va passer beaucoup de temps à ce stade. On en parlait dans le rendez-vous tech cette semaine, on en reparlera la semaine prochaine, puisqu'on a eu les retours des journalistes qui ont pu mettre vraiment les mains dessus, mais bon, c'est pas un truc de gaming. Quelque chose à dire sur la VR à ce stade, ou je parle du jeu sur Macintosh?
Moi je voulais juste parler un petit peu de l'Apple Vision Pro, parce que c'est vrai que ça a été annoncé lundi soir. Je comprends pas trop un petit peu où Apple va en venir avec ce casque-là, un casque qui est très cher, un casque qui ne révolutionne pas vraiment le monde de la VR tel qu'on la connaît. C'est vrai que niveau technique, ça a l'air d'être quand même un truc assez costaud, un truc assez impressionnant. Mais j'avoue que personnellement, j'ai du mal à voir la stratégie d'Apple à ce niveau-là. On sent que la VR n'arrive pas à bout de souffle parce que ça continue, mais ils arrivent un peu après la bataille, surtout qu'on en a parlé depuis des années du casque VR d'Apple, et surtout d'annoncer ce casque qui ne sera pas disponible avant 2024, en plus seulement aux États-Unis. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à voir ce que veut nous dire Apple à travers ce casque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu nébuleux pour l'instant pour moi.
Moi, je suis pas aussi négatif que toi. Je pense qu'il y a clairement une évolution technique importante avec le casque. Il est technologiquement impressionnant à de nombreux points de vue. Est-ce que le problème, en fait, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech, le problème, ça va être, est-ce que les usages changent? Est-ce que les usages, parce que les usages qui n'ont pas vraiment pris jusqu'ici, est-ce que ça va plus prendre avec ce casque-là qui est plus convaincant? Est-ce que ça va être la facilité d'utilisation du casque qui va faire qu'on va vouloir l'utiliser et donc que les usages vont prendre effectivement, ou est-ce qu'il va créer de nouveaux usages? L'ambition d'Apple est beaucoup plus large que simplement le jeu vidéo. D'ailleurs, ils n'ont quasiment pas parlé de jeu vidéo dans le contexte du Vision Pro. Mais c'est quelque chose qui pourrait prendre. Je ne sais pas si ça va vraiment prendre, mais moi, je crois que ça pourrait prendre, sachant que c'est un casque qui est beaucoup plus léger que d'habitude, qui a ce mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée qui a l'air de vraiment fonctionner. Il y a une interface de contrôle à l'œil, au doigt et à la voix qui est, d'après tous les retours, hyper fonctionnelle. Il y a plein de points positifs. Je ne sais pas si ça va toucher le jeu vidéo, mais peut-être que là aussi, le jeu vidéo en réalité augmentée pourrait être convaincant avec un appareil comme celui-là. Pourrait être convaincant, on verra l'usage. Pour ce qui est du lancement en 2024, il faut que les développeurs se mettent à développer. Hein. C'est une nouvelle plateforme, donc il faut que les développeurs puissent y avoir accès, chopent les SDK, et à partir du moment où les développeurs ont les SDK, où ils sont dans la nature... on a plein d'infos qui sortent, ça leak de partout, donc il vaut mieux le présenter avant. Ça, je le comprends assez, quoi. Après, je disais, le MetaQuest 3 sera à $500. Celui-ci, c'est quoi, $3,500 aux États-Unis?
C'est ça.
Pour un, mais c'est le premier modèle. Après, il y aura des visions pas pro qui sortiront, machin. C'est dans 4-5 ans que ça sera vraiment lancé. Mais Pour le prix d'un Vision Pro, vous avez quoi ? 7 MetaQuest ?
Et encore, tous les trois, est-ce qu'on est prêt en plus de ça à payer un set de lentilles de vue, puisqu'a priori on ne peut pas mettre de lunettes de vue en dessous d'un casque de VR à 3 500 $ ?
Bah écoute, c'est Apple, donc forcément on est prêt à payer. Moi je pense que la question se pose pas. J'ai vu que ça te gênait cette histoire de lunettes. Le problème c'est que porter des lunettes sous un casque, c'est jamais super pratique, ça grossit la taille du casque. Je comprends, moi, l'idée que on va faire des lentilles spéciales pour... c'est pas qu'on peut pas l'utiliser si on porte des lunettes, hein, c'est qu'il faut faire des lentilles spéciales par Carl Zeiss avec Apple qui vont vous permettre de l'utiliser, qui seront posées magnétiquement sur le casque. Ça va coûter encore plus cher, etc. Mmh. Mais je comprends qu'on puisse pas mettre les lunettes sous le casque parce que c'est tellement... Il y a des capteurs qui captent les mouvements des yeux, qui captent où vous regardez. Il y a genre 25 capteurs sur le truc, et caméras et micros. Donc, bon...
Et le PSVR 2, il y arrive.
Mais oui, mais il est beaucoup plus gros, le PSVR 2. Tout le monde y arrive. Mais là, il est hyper fin, celui-là. Évidemment que c'est pas une question de
ce
que
ça soit possible. Pour un truc à 3 500 balles, je trouve que c'est acceptable comme réponse.
Mais c'est pas... Non, mais Eska, c'est pas une question que ça soit possible ou pas. C'est une question que techniquement, pour que le casque soit relativement fin et que les capteurs fonctionnent, tu peux pas avoir de lunettes en plus dessus. Donc après, c'est pas que ça soit acceptable ou pas, c'est un choix technologique. Tu peux pas dire, non mais vous devez faire un casque plus gros, plus encombrant pour que je puisse garder mes lunettes et que votre casque marche pas, et que votre casque marche moins bien. Après, tu peux pas l'acheter parce que ça t'énerve, mais
comme tu dis, c'est un choix produit, mais en vrai, je pense que la part d'utilisateurs qui portent des lunettes et qui vont devoir porter des lentilles pour pouvoir utiliser les lunettes, bah en vrai, je sais pas, moi, c'est peut-être juste... J'ai peut-être un point de vue qui n'est pas le bon, mais moi je trouve ça vraiment gênant. Moi demain on me dit il faut que tu portes des lentilles pour utiliser un casque de VR, bah je dis non quoi. Enfin.
Non mais t'es pas des lentilles, c'est que tu fais faire des lentilles à rajouter au casque, que tu poses magnétiquement sur le casque et après tu l'utilises normalement. Tu vois, c'est comme si les lunettes étaient déportées. C'est pas que t'es obligé de porter des lentilles de contact, c'est que t'as des sortes de lunettes déportées posées sur le casque, juste collées au truc quoi.
D'accord, je pensais qu'il fallait aller acheter sa petite paire de lentilles et je trouvais ça aberrant.
Ah non, c'est qu'ils ont, oui, ils ont une solution pour ça qui va te coûter, j'en sais rien, 500 euros,
3 700 $ en voilà, plus.
On n'est plus à ça près, hein. Ça fait beaucoup de choses quand même à digérer pour un produit qui ressemble plus à une démo technique qu'à un vrai produit commercial pour l'instant.
Donc, j'aurais aimé vous entendre à l'époque de la sortie de l'iPhone 1 qui était plein de problèmes. Moi, je ne suis pas convaincu que le Vision Pro sera intéressant. Hein. Je pense qu'il y a une vraie possibilité. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, on aurait pu le dire, et on l'a dit d'ailleurs sur l'iPhone 1 à l'époque, on pouvait le dire sur l'iPod à l'époque. Moi, je lui préférais des petits lecteurs plus compacts, etc. Mais le condamner pour ses problèmes, je pense que c'est manquer... de vision. Bon, le truc plus intéressant pour cette émission qu'ils ont évoqué dans leur conférence, c'est les outils qu'ils ont développés pour pouvoir... c'est pas Hideo Kojima qui va sur le plateau pendant la présentation pour présenter un jeu qui est sorti il y a à peu près 40 ans sur PC, pour dire qu'il arrive sur Mac. Il a présenté Death Stranding qui arrive sur Mac, ok. Non, le plus intéressant, c'est surtout les outils de développement qu'ils ont préparés pour porter les jeux PC facilement sur Mac. Et un petit peu de contexte, depuis des années, les fans de Mac, depuis des décennies, les fans de Mac disent « Non, le Mac, ok, c'est pas super maintenant, mais tu vas voir, là, enfin, ça y est, le Mac va avoir des jeux, ça arrive, je te promets, grâce à tel processeur, grâce à telle fonctionnalité, et Metal, c'est beaucoup mieux que tout, et machin, et les M1, ils sont super puissants, ok. » J'y ai jamais cru, et ça ne s'est jamais matérialisé. Là, pour la première fois, ils ont un outil qui pourrait faire du Mac une véritable option de développement pour les éditeurs et les développeurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui s'appelle GameKit, qui est en fait une utilisation de Wine. Qu'est-ce que c'est que Wine ? C'est un... je vais faire simple, hein, mais c'est un émulateur, un traducteur d'API pour les jeux PC sur le système du Mac. Et donc, pour les développeurs, c'est assez simple, s'ils le souhaitent, d'utiliser cet outil pour, en quelques jours de développement ou quelques semaines de développement, adapter, porter leur jeu PC sur Mac. Sauf que, bon, bah, c'était un truc en open source, c'était pas hyper officiel et donc personne ne le faisait. Là, Apple a utilisé cet outil, à rajouter des trucs à eux pour passer des API DirectX 12 aux API Metal directement et livre ça très simplement avec la nouvelle version de macOS qui arrive cet automne, macOS Sonoma. Et les premiers tests sont ultra, ultra impressionnants. Déjà, pendant la conférence, j'ai vu ça et je me suis dit « Ah, là, il y a un truc !» Parce que il y a énormément de développeurs il y a énormément de Mac dans la nature et donc les développeurs pourraient être intéressés par l'idée de porter leur jeu si c'est facile. Et les premiers tests qu'on voit, un simple utilisateur qui programme un tout petit peu a réussi à faire tourner sur son MacBook Pro, sur son MacBook M1, MacBook Pro 14 pouces, il a réussi à faire tourner Diablo 4. Alors, la capture qu'il propose est pas, a une fréquence d'affichage un petit peu décevante. Il est en, je sais pas, 15 ou 20 FPS. Il dit, c'est mon outil de capture. En réalité, ça tourne pas mal. Mais Diablo 4, qui tourne en un jour sur Mac M1, là, je me dis, OK, ça fonctionne. Alors, évidemment, quand les développeurs vont le faire, si ça leur prend deux jours ou une semaine ou un mois de porter le truc, ça le rend le coût de développement acceptable pour accéder au marché du Mac. Et du coup, je pense que grâce à cet outil, le jeu vidéo va vraiment arriver sur Mac pour de vrai. Là, on peut vraiment croire que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, eh ben, les sorties pourraient être simultanées PC et Mac. Et Dieu sait que les gens qui observent l'univers du gaming entendent ça et traditionnellement, c'est une blague, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Aujourd'hui, je me dis, oui, peut-être, c'est possible. Et à vrai dire, si ça fonctionne comme ça, et ça a l'air de fonctionner comme ça, c'est à peu près sûr. Tout à coup, ouais. En une conférence, le Mac devient une plateforme de jeu viable pour les développeurs, ce qui n'était pas le cas.
Ça a l'air plus crédible, en effet, présenté. Mmh.
Il était temps surtout, parce que oui, comme tu l'as rappelé, ça fait des années et des années qu'on nous promet le jeu vidéo sur Mac, et là, enfin, ça se concrétise. Après, il y avait déjà maintenant des solutions, notamment via Cloud Gaming et tout, mais là, ne pouvoir profiter du M1 et du M2, de la puissance des processeurs Apple, en passant directement par une solution que eux fournissent eux-mêmes, là, pour le coup, c'est pas un rêve, hein, mais c'est vraiment un espoir qui se concrétise enfin pour tous les possesseurs de MacBook qui est un petit peu laissé sur le quai de la gare concernant le jeu vidéo, quoi.
C'est clair. Et pour être clair, hein, c'est un outil qui a été publié avec la bêta de macOS Sonoma, que les utilisateurs random se sont mis à bidouiller, ont commencé à bidouiller. Ils ont déjà réussi à faire tourner des trucs. Quand les développeurs l'utiliseront, ça sera encore plus efficace, encore mieux fait, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je me dis, ça peut fonctionner. Et moi, mon Mac M2, mon MacBook Air M2 sur lequel je stream en ce moment, je le dis parfois, c'est le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie. Il est incroyable, il est magnifique, une autonomie de fou, une puissance vraiment potable, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Alors, ça ne veut pas dire que je vais jeter mon PC de gamer, hein, évidemment. Mais avoir un Mac qui fait tourner les jeux aussi, ça sera une très bonne nouvelle, quoi. Donc voilà pour les petites infos que je voulais traiter là. Mais il y a aussi des infos sur les résultats des jeux dont on parlait la semaine dernière. C'est marrant, je faisais un tweet en fin de semaine. Je disais, OK, je vais jouer au jeu des prédictions. Est-ce que je peux prédire les ventes de Street Fighter et Diablo? Et sur Street Fighter, j'ai été pile poil, 1 million. Et sur Diablo, alors moi, j'avais dit 3 millions. On va voir que c'est peut-être plus de 3 millions. Mais c'est peut-être, il y a peut-être une entourloupe quelque part. Quoi qu'il en soit, comme on pouvait s'en douter, bah, ces jeux connaissent un succès absolument incroyable. Hein. Street Fighter, Alors, je ne vais pas dire que tout le monde en parle, parce que tout le monde parle plutôt de Diablo, on va dire c'est trois quarts, un quart. Mais quand même, il y a plein de gens, moi j'ai vu plein d'amis journalistes qui s'intéressent à Street Fighter, qui stream Street Fighter, qui y jouent. On parlera de mon expérience avec le jeu dans quelques minutes. Et Diablo, bon, bah, c'est le smash hit, tout le monde est dessus, tout le monde stream Diablo, tout le monde ne parle que de Diablo, etc., etc. Donc bon, c'est pas très surprenant qu'il y ait un succès sur ces deux jeux, mais c'est plutôt comment dire, c'est plutôt cool que les deux jeux aient bien fonctionné. Ce que je dirais, c'est que une chose qui a pas forcément été mentionnée, c'est que les deux jeux se sont lancés et ont super bien fonctionné dès le premier jour.
Ouais.
Et on est souvent prompt à critiquer avec raison les lancements ratés de jeux services ou de jeux en ligne. Et on ne mentionne pas forcément quand ça se passe bien. Ben là, dans les deux cas, j'ai entendu parler d'aucun gros problème et ça a super bien tourné tout de suite. Donc, bonne nouvelle, y compris au vrai lancement. Dans le cas de Diablo, il y avait l'Early Access et puis le vrai lancement. Tous les deux se sont bien passés. Et Street, il n'y a eu aucun souci. Donc, plutôt cool de ces deux points de vue.
Oui, effectivement, moi, je m'attendais à ce qu'on ait les mêmes affres qu'au lancement de Diablo 3, la fameuse erreur, je ne sais plus combien.
Erreur 37.
Ouais.
Ah oui, alors ça aurait été la catastrophe, là, pour le coup.
Ouais. Et moi, je pensais vraiment qu'on aurait ça. Enfin, tu vois, c'est classique pour un lancement de jeu. Et là, te voir que... Alors moi, je n'ai pas payé les 20 euros en plus pour avoir l'accès anticipé, mais j'ai pas mal de potes qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de problème. Juste au tout début, ils ont un petit peu galéré, mais ça s'est très vite résolu. Et je me disais, bon, bah, nous, on va tous manger le soir du 6. Et en fait, j'ai eu la super bonne surprise. J'avais même lancé avant d'aller manger en me disant, comme ça fera tourner la file d'attente. Et en fait, aucun problème. Je me suis connecté immédiatement. Je me suis dit, ouais, par rapport à, enfin, quand tu vois ce qu'on a vécu il y a bientôt 10 ans maintenant avec Diablo 3, ils ont appris de leurs erreurs, quoi. C'est cool.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'aura de Diablo 3 qui est restée en termes de lancement catastrophique. Mais déjà, il s'est passé une décennie depuis. Et depuis, Blizzard a vraiment appris sur ce sujet. Quand on regarde tous les lancements de World of Warcraft, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un lancement catastrophique de WoW. Tout se passe super bien. Maintenant, ils savent faire. Et c'est vrai que Diablo, c'était un peu le vrai test, hein, parce que c'est vraiment leur mastodonte. Et là, ouais, comme tu dis, pour le coup, aucun souci, tout a été vraiment géré à la perfection, aucune file d'attente. Donc là-dessus, voilà, faut dire aussi que ça se passe bien. Mais c'est, au final, c'est pas très étonnant au vu de ce qu'ils nous proposent ces dernières années quand même.
Mais tu sais, moi, je suis quand même étonné que ce soit le jeu. Bah là, tu le mets sur ton écran, Patrick, mais le jeu qui se soit vendu le plus vite. De chez Blizzard, enfin moi j'avais pas l'impression qu'il y avait, oui il y avait de la hype autour du jeu, mais tu vois par exemple par rapport à la sortie de Diablo 3, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de hype autour de la sortie de Diablo 3 à l'époque, et je suis quand même assez surprise quoi de ce résultat là. Je sais pas si vous avez une idée de ce qui s'est passé.
Alors justement moi ça m'a paru suspect. Parce que le langage, alors c'est mes habitudes, vous savez que j'étais PR, enfin chargé de relations presse chez Blizzard il y a de nombreuses années de ça, je travaillais dans les bureaux parisiens, et donc le langage des communiqués de presse, ça m'interpelle toujours un petit peu quelque part. Et en l'occurrence, ils disent Diablo 4 est le record du jeu vendu le plus rapidement de tous les temps chez Blizzard. Les records précédents, alors Diablo avait fait, je ne sais plus, 3 millions, 3,5 millions, Shadowlands avait fait 3,7 millions. Et là, ils disent ça et ils nous donnent des chiffres à la con, genre les joueurs ont joué 93 millions d'heures, soit 10 000 ans déjà. Il y a eu, et que des chiffres comme ça. Et donc, je cherche le nombre de ventes et j'en trouve pas. Et je me dis, mais s'ils ont fait 4 millions, ils vont le dire, ils vont en parler. Quand tu dis je bats le record, quand tu veux avoir de la presse, tu dis exactement ce que t'as fait. Alors je lis le communiqué de presse, et ce qu'ils disent en fait, c'est un langage très précis. Ils disent « Already, it is Blizzard Entertainment's fastest selling game of all time, with Blizzard's highest pre-launch sales, pre-launch unit sales ever on both consoles and PC. » Ça veut dire, c'est les plus grosses ventes en pré-vente de l'histoire. Donc, ils ont publié le communiqué de presse, si je ne me trompe pas, le jour du lancement du jeu, le jour du vrai lancement, et ils ont compté les préventes, donc avant le lancement, jusqu'au jour du lancement. Donc, les gens qui se sont connectés à l'Early Access. Enfin, à l'Early, oui, c'est ça, pas Early Access, mais...
l'accès anticipé. Pouvoir, oui.
L'accès anticipé, voilà, enfin, c'est peut-être Early Access. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un loup, s'il n'y a pas une astuce de PR un peu vicieux qui dit, bah non, si on compte les préventes, bah Diablo 4, il a fait mieux que tous les autres. Mais si tu comptes les ventes, parce que généralement, ce que fait tout le monde, c'est que tu comptes les ventes au premier week-end. Tu prends la sortie et tu comptes les ventes après le premier week-end, qui est la plus grosse, qui vont faire les plus gros chiffres, évidemment. Et pour tous les jeux précédents, c'est ce qu'ils faisaient, à ma connaissance. Quand ils parlent de Shadowlands, du succès de Shadowlands à 3,7 millions, qui est le plus gros lancement, eh ben c'est le premier week-end. Street Fighter, quand ils comptent le million, c'est le premier week-end. Et donc, je me demande s'ils ne sont pas dit, alors on ne va pas compter le premier week-end, on compte les préventes, et donc on n'a pas d'autre chose à comparer. Et donc, on peut dire que c'est les plus grosses préventes de l'histoire parce que on n'a jamais vraiment compté les préventes. Peut-être qu'ils en ont vendu plus en prévente que sur les autres jeux, mais ils ont en fait vendu moins que le record précédent de premier week-end qui était 3,7 millions. Peut-être que je me trompe. On me dit dans la chatroom, tu comptes les préventes pour Shadowlands. Ils avaient compté les préventes. Bien sûr, bien sûr. Tu comptes tout, mais tu comptes aussi le premier week-end. Et là, ils comptent en fait uniquement les préventes, sans les jeux vendus à la sortie. Et pour Shadowlands, ça se trouve, il y avait, j'en sais rien moi, 2 millions de préventes et puis 1,7 en plus le jour de la sortie, je dis n'importe quoi. Mais du coup, peut-être que là, Diablo, en fait, ils ont le jeu le plus rapidement vendu, mais ils en ont en prévente le chiffre qu'ils nous donneraient là. Ils ne veulent pas nous le donner, parce qu'en fait, ça serait 2 millions, alors que le record, le vrai record de Shadowlands, c'est 3,7. J'en sais rien, ça se trouve, ils ont fait 4 millions de préventes. Peut-être qu'il y en a... Enfin, même s'ils ont fait 2 millions ou 1 million, c'est un chiffre énorme. Mais ils ne veulent pas le donner, et moi, ça me paraît hyper suspect. Je pense, en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils n'ont pas battu Shadowlands, le chiffre qu'ils ont donné pour Shadowlands, qui était de 3,7 millions le premier week-end, et ils ne l'ont pas battu avec ce chiffre de prévente. Donc le fait de dire c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard... Bah, tu sais pas à quoi tu compares. Et comme pour tous les chiffres, bah, tu les arrêtes quand, les chiffres? Généralement, on compte le premier week-end. Mais si c'est 5 jours parce que t'es sorti un mercredi et que tu comptes jusqu'au mardi, c'est pas tout à fait la même chose que si tu sors un vendredi et tu comptes jusqu'au dimanche. Si tu comptes le premier mois de vente, bah, peut-être que ça sera différent, etc., etc. Donc, en l'occurrence, il est possible qu'on ait un nouveau chiffre avec le premier week-end dans quelques jours, et là ils diront ah ben on en a vendu 4 millions. Mais moi je crois que là, le communiqué de presse qu'on a eu qui dit plus grosses les ventes les plus rapides de toute l'histoire de Blizzard, je pense qu'ils n'ont pas donné le chiffre parce qu'ils n'ont pas fait plus que le précédent record où ils comptaient le premier week-end. Je sais pas si j'ai été clair.
La configuration était un peu différente vu qu'il n'y avait pas d'accès anticipé sur Shadowlands, donc c'était vraiment tout le monde qui arrivait en même temps. Là, on est vraiment sur un cas de figure qui est très particulier, avec vraiment un lancement qui est en deux temps. C'est la première fois qu'ils font ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu trompeur, mais comme tu dis, s'ils battent tous les records de vente, peut-être que ça va arriver avec tout le marketing qu'ils mettent. Il y a des chances. Ils communiqueront dessus très rapidement parce que forcément faut communiquer dessus. Mais c'est vrai que là pour l'instant on ne sait pas à quoi comparer cette entre guillemets ce bon lancement quoi.
Mais c'est ça qui me frustre en fait. Parce que je trouve ça mensonger. Ils disent c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard. Et quand tu reprends le langage des communiqués de presse précédents, pour Shadowlands ou pour Diablo 3, même pour l'époque, ils disent toujours, et on disait, nous, enfin, moi je les ai traduits, je les ai rédigés, les communiqués de presse, on disait bah, c'est le jeu le plus vendu. Parce que tu peux pas dire genre le plus vendu, tu comptes quand? Tu dis le plus rapidement vendu parce que tu comptes le premier week-end. Donc là, en fait, quand ils disent le jeu le plus rapidement vendu, tu pars du principe qu'il a battu le record précédent. Donc tu pars du principe qu'il a fait plus que Shadowlands, qui était le record précédent. Et je crois que c'est pas le cas à ce stade. Donc c'est mensonger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils n'ont pas vendu plus de 3,7 millions, pour moi, c'est mensonger la manière dont ils ont tourné leur communiqué de presse. Alors, on s'en fout, je suis un petit peu en train de faire des trucs à des mouches, mais c'est quand même, vous voyez, la manière dont la communication peut vous embrouiller en disant « Ah oui, mais là, on fait ça et on fait ça. » Et tous ceux qui vont lire ce communiqué de presse vont se dire « Bon, bah, ils ont fait plus que Shadowlands. » Comme ils ne donnent pas le chiffre, je ne suis vraiment pas sûr.
C'est vrai.
Bref.
C'est vrai. Et après, Diablo 4, c'est too big to fail, hein, comme on dit. Donc, il faut que ça marche. Il faut montrer que ça marche. Donc, forcément, ils vont se gargariser de ce bon lancement. Parce qu'on rappelle hein, que c'est un jeu qui arrive à une période très particulière dans l'histoire de Blizzard. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, il faut montrer qu'on est là. Il faut montrer qu'on a du succès. Surtout dans une année où il y a énormément de gros blockbusters qui arrivent en si peu de temps. Donc après, quitte à s'arranger avec la réalité, on l'a déjà vu, hein. Mais disons que c'est pas étonnant.
Et après, ouais, il y a aussi Yuen qui disait qu'il y a les joueurs console aussi à rajouter. Je ne sais pas si...
Ils sont comptés ouais. Dans leurs chiffres qu'on n'a pas là. Ils disent bien spécifiquement « Blizzard's highest pre-launch unit sales ever on both consoles and PC ».
Mais c'est vrai que sur le précédent lancement, les joueurs console n'étaient pas présents. Donc du coup, forcément, ça rajoute aussi...
Bien sûr, tout à fait. Mais du
global.
Coup, pourquoi ils ne donnent pas le chiffre? Pourquoi ils ne donnent pas le chiffre s'il est... Pour moi, la seule explication... Après, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pour ne pas inquiéter les autorités de la concurrence qui regardent le truc avec Microsoft, etc. » Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que c'est parce qu'ils ont fait moins de 3,7 millions. Et donc, en donnant le chiffre, bah, ça se verrait qu'ils ouais. nous ont menti. Activision Blizzard nous ment. Sachez-le. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour ces belles informations hyper importantes sur des chiffres essentiels. On va du coup passer au jeu auquel on joue en ce moment, mais je voudrais parler un petit peu de Patreon, patreon.com/rdvjeu. Vous savez ce que c'est ce site ? C'est un site où on ne vous ment pas. On vous dit, vous donnez des sous à Patrick, vous allez avoir des petits bonus sympathiques, comme par exemple des contenus supplémentaires réservés aux abonnés, vous avez des émissions sans pub, zéro pub, aucune pub, même pas ce petit laïus au milieu. Et vous avez aussi la fierté, le bonheur de soutenir un créateur que vous appréciez. Vous pouvez avoir tout ça pour la modique somme de la somme que vous choisissez vous-même. Franchement, vous préférez quoi ? Avoir des communiqués de presse mensongers de certains éditeurs peu scrupuleux ou le plaisir de soutenir un créateur que vous aimez ? Moi, j'ai fait mon choix, je vous encourage à faire le vôtre sur patreon.com/rdvjeu. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent déjà cette émission.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue sans jingle, à moins que Fanny, je ne sais pas si tu voudras le rajouter, c'est un peu chiant de rajouter les jingles au milieu, hein, donc on ne va peut-être pas s'imposer ça. J'essaierai de voir si je peux dans mon studio rajouter les jingles, parce que je sais qu'ils vous manquent. Il vous manque les trucs qui font je ne fais pas très bien. Mais vous l'entendez dans votre tête. Et donc, on va parler enfin de Diablo 4. Diablo 4 qui est le jeu, rappelons-le, hein, qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Blizzard. Ils l'ont dit dans un communiqué de presse, donc c'est vrai. Diablo 4, donc, jeu très attendu. Pierre, plutôt que de me laisser déblatérer pendant encore de trop longues minutes, tu l'as testé, tu y as joué du début à la fin, tu l'as plutôt bien aimé. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ?
Oui, alors Diablo 4, bon, je pense que vous avez vu tous les tests, hein, y a un quasi consensus sur le fait que c'est un excellent jeu vidéo en termes ludiques, hein. Dans l'absolu, on retrouve c'est un petit peu le Diablo de rêve, on retrouve le Diablo qui nous plaît, avec le gameplay qui est à la fois rigide comme dans Diablo 2 mais aussi nerveux comme dans Diablo 3. Il y a un parfait équilibre, il y a vraiment une maîtrise ahurissante en ce qui concerne le gameplay, en ce qui concerne le level design. Donc c'est vraiment presque un best-of de tout ce qui se fait de mieux, tout ce qu'ils ont fait en termes de Diablo. Mais ils ont aussi pris des risques avec cette espèce de structure, enfin cette structure en MMO. C'est vrai que c'est la première fois que ça arrive sur un épisode numéroté, hein, Diablo Immortal avec servi de cobaye là-dessus. Et là, pour le coup, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire au jeu qu'il n'y avait pas avant. Donc en gros, pour faire simple, dès le début de l'aventure, on est lâché dans un monde ouvert, entièrement explorable, où on peut croiser d'autres joueurs qui vivent leur petite vie. On peut discuter avec eux, on peut faire des quêtes avec eux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant dans les Diablo, où c'était vraiment une progression qui était beaucoup plus linéaire, beaucoup plus centrée sur l'histoire. Et là, on a vraiment une sensation que Diablo 4 a été conçu pour être presque le nouveau World of Warcraft, en fait, presque le MMO, parce qu'il a été développé comme un MMO qui doit durer au moins une décennie. D'ailleurs, il communique énormément là-dessus en voulant rassurer les joueurs, avec notamment sur le système économique, en promettant que non, vous inquiétez pas, ça sera pas comme Diablo Immortal, ça sera, si vous achetez des trucs, ça sera que cosmétique. Ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Ils communiquent également beaucoup sur les saisons qui commencent dès le mois de juillet, donc qui vont apporter toujours constamment du contenu, et aussi sur les prochaines extensions. Ça, c'est quelque chose de très rare chez Blizzard. Déjà direct, ils disent voilà, on travaille sur deux prochaines extensions. Rassurez-vous, votre jeu, vous continuerez à y jouer dans 3-4 ans, parce que le modèle, effectivement, c'est les jeux services à la Call of Duty, à la Fortnite. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de
super important. Je pense que ça fait un peu peur, ouais. Hein, quand tu dis oui, ça, ouais. C'est le modèle à la Call of Duty, à la Fortnite. Je pense que ça fait un peu peur de se dire, ça y est, ils ont déjà commencé à penser à comment nous monétiser. Pas commencé à faire le jeu, ils pensent à comment nous monétiser ensuite.
Et ça, ça a été vraiment le nœud du problème. Hein. Rob Ferguson, le créateur du jeu, le directeur du jeu, il a beaucoup communiqué dessus, il a rabâché. Oui, vous inquiétez pas, le modèle économique sera entre guillemets vertueux, mais faut pas se leurrer. Diablo 4, c'est censé, ça a été pensé pour être un long seller. Donc là-dessus, ils sont obligés de communiquer là-dessus, surtout qu'il... Alors, c'est un MMO, mais il n'y a pas d'abonnement, donc il faut bien aussi se faire un petit peu de sous, entre guillemets, derrière. Donc, donc voilà. Et tout ça, ça donne un jeu qui est ahurissant de maîtrise en termes de gameplay, en termes de level design, en termes de construction de la progression, mais qui veut nous prendre par la veste et nous garder pendant des mois et des mois, quoi. Donc là-dessus, ils sont très très forts.
Alors justement, tu disais c'est un best-of de tous les Diablo précédents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ce qu'on en entendait il y a une semaine, c'est que le gameplay est quand même hyper proche de Diablo 3. Et surtout, il y a une inquiétude sur le... Je ne sais pas si on peut parler du endgame déjà maintenant, c'est peut-être pas le moment, mais il y a une inquiétude notamment...
On peut, hein.
Exerve s'en est fait l'écho. Sur le long terme, il y a des gens qui pensent que... le jeu est pas assez varié, le jeu te restreint trop, l'itemisation est pas bonne, et donc sur le long terme, certains s'inquiètent déjà. On a aussi énormément de positifs, hein, comme on le disait, il est à quoi 90, 89 sur Metacritic, donc il y a énormément de gens qui adorent le jeu, qui passent énormément de bon temps, il y a plein de commentaires positifs. Mais du coup, oui, il y a vraiment ces deux parties. La progression dans la campagne, qui en plus a l'air d'être cool, je veux pas qu'on spoil, mais a l'air d'être cool au niveau histoire, au niveau ambiance, etc. Et puis ensuite, le endgame sur le long terme, parce que des jeux comme Diablo, c'est hyper important. Je serais curieux de savoir si toi, tu t'en inquiètes déjà ou pas. Peut-être la première partie déjà, donc la campagne, les différentes classes sont fun à jouer, sont cool, c'est pas répétitif comme on a souvent du contenu dans les mondes ouverts ou dans les MMO, va chercher trois loups, va tuer trois rats, etc. C'est fun, c'est dynamique.
Ça l'est un peu forcément, c'est un peu l'essence même de Diablo d'être répétitif, mais comme tu dis, voilà, c'est l'enrobage qui compte, et là pour le coup, on a vraiment des activités qui sont sont très très variées. Alors certes, on retrouve beaucoup de choses à refaire, hein, des quêtes annexes, va me tuer trois loups, libère ce fort là, mais c'est que de l'habillage, parce que dans l'absolu on fait vraiment toujours la même chose. Mais Blizzard a été assez intelligent pour apporter vraiment une variété au niveau du gameplay, c'est-à-dire qu'on a vraiment cinq classes qui sont très très différentes, donc on a vraiment l'impression de passer d'un jeu on a vraiment l'impression de changer de jeu quand on passe d'une classe à l'autre. Même quand on change son build, on change totalement notre manière d'appréhender les combats, donc là-dessus c'est très très fort. Donc oui, c'est répétitif, mais il y a aussi un investissement de la part du joueur de faire des expérimentations et de changer un petit peu sa manière de jouer. Après, pour le endgame, là on est quand même sur un jeu qui est sorti il y a deux jours, donc forcément, au niveau endgame, ça reste assez light pour l'instant, mais il y a des choses à faire. Blizzard a vraiment pris soin. D'ailleurs, ils ont aussi communiqué là-dessus. Hein. Ils ont mis des activités vraiment pour les joueurs qui veulent vraiment tryhard comme des cochons. Donc, il y a des donjons cauchemars, il y a des arènes un petit peu PVE, PVP. Ça, pour le coup, c'est en lancement. Mais ils insistent aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de contenus qui arriveront au fil des mois. Il y a un système de saison qui va arriver avec des quêtes supplémentaires, des petites activités à faire en plus. Donc en gros, l'idée c'est quand on se connecte, on a toujours un truc à faire pour améliorer son personnage, pour découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est la promesse. Après,
tu te connectes, je sais pas, peut-être pas 5 minutes, mais t'as 20 minutes, t'as un truc à faire, tu peux aller faire un donjon qui est fun ou t'as un event dans le monde ouvert, etc. Ça fonctionne, quoi.
C'est ça, c'est l'objectif. Et pour l'instant, ça fonctionne. Après, il faut qu'ils rajoutent des choses, parce que forcément, l'endgame en lancement, on va très vite tourner en rond. Mais pour l'instant, il y a déjà des choses à faire pour entre guillemets, tenir 2-3 mois, quoi.
J'ai une question à propos. Tu dis, on peut changer de build, c'est super fun, ça fonctionne. Oui. À propos, justement, de la question des builds, l'une des préoccupations, c'est que il y a un seul moyen de faire chaque type de build. C'est-à-dire que quand tu prends, j'avais joué un petit peu le mage pendant la bêta, enfin le sorcier, tu prends ton sorcier, tu veux jouer un sorcier feu par exemple, ben, sur ton arbre de talent, tu vas avoir à chaque fois, à peu de choses près, un talent à prendre dans chaque nœud, et une amélioration, tu pourras choisir ton amélioration pour chaque sort, mais il n'y a pas beaucoup de variété ou d'inventivité dans la manière dont fonctionnent les différents builds. Si tu veux faire feu, bah tu vas prendre tel et tel talent et puis bah ça. Si tu veux faire électricité, voilà, t'as ta liste de talents qui est presque déjà faite. Et du coup, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas d'option. Ou peu. Parce que, alors que Diablo 3, enfin, tu pouvais choisir pour chaque talent, tu avais plein de runes différentes. C'est pas juste qu'il y a une façon optimale de faire ton arbre de talent si tu veux jouer tel type de sorcier, c'est que tu as une façon et basta. C'est le cas ou t'as pas tout à fait cette image?
Alors, j'ai pas tout à fait cette image, parce que dans l'absolu, oui, il y a des sorts. Voilà, si tu veux faire que du feu, il y a tel sort de feu qu'il faut prendre. Après, rien ne t'empêche d'essayer de mixer un petit peu, d'essayer de construire ton propre build. T'es pas obligé de faire qu'un mage qui est 100% feu ou un mage 100% glace. Voilà, c'est un peu à toi d'expérimenter aussi. Hein. Il y a des builds sur Internet qui existent déjà, qui sont très bien. Mais moi, je conseillerais vraiment, lorsque vous montez votre personnage, ne regardez pas les builds, expérimentez, regardez les sorts, n'ayez pas peur un petit peu de mélanger. Et ça fait aussi partie du jeu, hein, l'expérimentation. Fait vraiment partie de l'expérience Diablo. Et là-dessus, je le trouve un petit peu plus fouillé que Diablo 3. On n'est pas au niveau d'un Pass of Exile, hein, là pour le coup, c'est comparé à ce qui est comparable, mais il y a vraiment un effort qui a été fait pour essayer de pousser l'utilisateur à tenter différentes choses. Après, voilà, les jeux bizarres, c'est toujours la même rengaine, hein, c'est toujours la même depuis 25 ans, c'est facile à prendre en main, difficile à maîtriser. Donc c'est vrai que quand on commence un petit peu à toucher à ça, on se dit, tiens, c'est quand même assez simple. Mais quand on commence à gratter un petit peu, qu'on veut faire des trucs un petit peu plus opti, là, on se rend compte qu'il y a quand même une certaine couche de profondeur qu'il y a à explorer. Mais voilà, il faut expérimenter, il faut regarder, il ne faut pas avoir peur de mélanger différents styles de jeu en une seule build.
Est-ce que il y a d'autres éléments de gameplay qui viennent complexifier justement cette personnalisation de ton perso? Je pense aux, évidemment aux objets. Enfin, le loot dans Diablo, c'est les trois quarts du jeu. Il y a les aspects qu'on peut obtenir quand on fait un donjon spécifique. On peut avoir un pouvoir qui va modifier nos sorts, qu'on va pouvoir appliquer ou pas appliquer. Je veux dire, est-ce que l'idée, c'est pas que la personnalisation est déportée de l'arbre de talent, ou peut-être même dans l'arbre hyper complexe de Paragon, est déportée de l'arbre de talent classique et on le retrouve ailleurs? Est-ce que ça joue beaucoup aussi, ces histoires d'aspects? Est-ce que les objets changent ta manière de jouer, etc.?
Alors oui, forcément. Et justement, c'est ça que le jeu est un parfait équilibrage. C'est que dans l'absolu, tu peux pexer et avoir un personnage très fort, mais il faut vraiment jouer, il faut vraiment explorer. On te pousse toujours à l'exploration. D'ailleurs, les donjons, ça débloque des petits avantages pour tes personnages, mais pas seulement le tien, aussi pour tes personnages secondaires. Donc en fait, le jeu te pousse constamment à jouer plus pour améliorer ton personnage ou tes personnages secondaires. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment très fort, parce que tu théoriquement, tu ne t'arrêtes jamais de jouer avant d'avoir fait le jeu à 100%, parce que tu dois tout faire.
Les donjons, justement, ils sont pas aléatoires. Est-ce qu'ils deviennent pas répétitifs au bout d'un moment?
Alors, ils sont générés aléatoirement, mais ils se construisent toujours à peu près sur le même schéma. Donc après, oui, ça devient forcément répétitif, mais il y a toujours un habillage qui te pousse à aller de l'avant. Par exemple, tu vas dans un asile de fou, après tu vas dans une forteresse abandonnée, après tu vas dans une caverne de glace. Les niveaux peuvent être construits à peu près toujours de la même façon, mais les ennemis changent, les patterns des boss changent, les objectifs aussi ne sont pas les mêmes. Après, oui, ça reste quand même assez répétitif, mais dans l'absolu, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une question d'habillage, parce que Diablo, la boucle de gameplay, elle est extrêmement simple, et au final, tu fais toujours la même chose du début à la fin.
L'important est que ça soit fun quand tu fais toujours la même chose, que si c'est bien pour moi Diablo 3, donc
c'est ça, ouais. C'est fun, et ça te pousse aussi à jouer avec d'autres personnes. Forcément, c'est un petit peu l'objectif de ce Diablo 4 en accent sur le multijoueur et le MMO, c'est de rendre l'aventure plus fun à plusieurs. Et justement, un donjon que tu as déjà fait, que tu connais déjà, le refaire avec un pote, c'est quand même toujours assez fandard.
Justement, je voudrais qu'on parle de l'aspect multijoueur, qui est hyper important ici, avec ce monde ouvert et les world boss, etc. Avant ça, il y a un autre reproche qu'on a fait à Diablo, qui est celui de la progression, des monstres qui sont à un niveau adapté au tien. Et beaucoup de gens disent, du coup, t'as jamais l'impression d'être super puissant, parce que tu reviens à la zone de départ avec ton niveau 45, alors que t'étais niveau 1 quand t'as commencé. Les monstres, tu vas les tuer aussi vite qu'au lancement, donc t'as pas cette progression par à-coup qui fait que tu te sens plus puissant. Tu l'as ressenti, ça, ou pas?
Alors oui, mais ça, c'est un débat qui est assez vieux dans le jeu vidéo. Je crois que c'est Oblivion, à l'époque qui avait sorti ce.
Ouais, tu peux aller n'importe où dans le monde et t'as toujours.
Voilà. Après, c'est une question de d'équilibrage aussi, dans le sens où le jeu t'apporte toujours un petit peu de challenge, mais c'est vrai que tu n'as pas cette sensation de puissance où tu ne hausses pas les monstres de la zone du début, où t'as toujours une petite difficulté à avancer, à progresser dans le monde. Ça fait aussi partie. Ça contribue à rendre le jeu toujours entre guillemets intéressant, mais c'est vrai que c'est un débat, parce que il y en a qui n'apprécient pas trop ce système, parce que comme tu dis, tu ne deviens pas ultra puissant, même si Blizzard quand même a essayé de rendre palpable la progression de ton personnage avec des sorts qui deviennent de plus en plus puissants visuellement, qui font de plus en plus mal. Mais voilà, on reste toujours face à quelque chose qui est d'assez égal à nous-mêmes lorsqu'on se balade dans le monde, même en revenant au début du jeu, quoi.
Ouais. Il y avait un aspect que j'avais cru remarquer dans la bêta, qui justement m'avait beaucoup parlé. C'était le fait que, oui, les monstres restent aussi puissants quel que soit ton niveau, mais la manière dont ils ajoutent de la sensation de puissance, c'est que au niveau, 5, quand tu rencontres un groupe de monstres, il y a deux pauvres petits démons. Mais si tu reviens niveau 30, tu as une horde avec des trucs qui te lancent des sorts de loin, des gros mastodontes qui vont sortir du sol. Et oui, c'est le même niveau que toi, mais du coup, la sensation de puissance était quand même présente, parce que tu es pas juste deux monstres pourris, mais une armée qui te fonçait dessus. C'est le cas dans la...
Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, plus t'avances, plus tu dois te taper contre des monstres de plus en plus gros, ce qui est logique. Et surtout, voilà, des monstres qui ont de plus en plus de compétences.
Pardon, oui, je t'interromps. C'est pas juste que c'est un monstre qui est plus gros quand t'es à plus haut niveau, qui a plus de points de vie, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment le groupe qui, dans la zone de départ, aurait eu deux monstres. Si tu reviens 20 niveaux plus tard, bah, il y en aura 15. Et donc, ce sentiment de puissance est transmis, malgré tout, par ce biais, j'avais trouvé.
Oui, bien sûr.
D'accord. La dernière chose que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu as eu l'occasion justement de jouer en multi avec des joueurs, pas forcément que des potes, mais aussi en te baladant dans le monde, en essayant de battre des world boss, etc. Est-ce que ça apporte quelque chose? Quelle a été ton impression là-dessus?
Alors, moi je trouve que, après c'est un débat, hein, mais moi je trouve que l'aspect MMO apporte quand même énormément à Diablo, dans le sens où oui, tu vas croiser un mec dans la pampa et naturellement en fait il y a une espèce de cohésion qui va se mettre en place, on va aller tuer les mêmes monstres et tout, tu peux aussi après voilà groupe avec lui sans forcément communiquer, hein, c'est un petit peu dommage, mais voilà, pour faire un donjon tu te fais un ami de 20 minutes et ça apporte vraiment beaucoup au jeu. Après comme tu le dis aussi, il y a des world boss, là pareil ça requiert toute la cohésion entre joueurs et donc ça je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au jeu, et rien que le fait de se balader dans les villes et de voir les autres joueurs se balader et vaquer à leurs occupations, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Moi qui suis très fan de MMO, tu vois, c'est vraiment, je trouve que ça apporte une vie à l'univers que t'as pas à côté, vraiment dans un jeu solo où le jeu est designé juste pour toi, donc ça c'est très fort. Et c'est aussi le premier Diablo, faut le signaler, à être cross-platform, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, vraiment, tu es sur les mêmes serveurs que les gens qui sont sur PS5 ou sur Xbox ou sur PC.
Diablo Immortal, c'était pas le cas?
Le
Diablo Immortal.
Diablo Immortal, si, mais est-ce que c'était sur mobile et PC en même temps?
Ouais.
Mais là, c'est sur les consoles. Je crois que c'est la première fois qu'ils font du cross-platform et en plus du cross-progression. Donc, si tu achètes le jeu trois fois, tu seras pas obligé de le recommencer trois fois.
C'est pas sur Street Fighter, malheureusement. Sur Street, t'as pas de cross-progression, t'as du cross-play, mais tes comptes sont séparés, malheureusement, sur les différentes plateformes. Bon, après, d'accord, Street Fighter, c'est moins chiant parce que ton perso, tu joues ton perso et tu peux le jouer sur n'importe quelle plateforme, mais.
D'accord, c'est une problématique de gestion de compte. C'est pas que les données de ton personnage sont sauvegardées en local, par exemple.
Alors, il y a un peu de ça aussi, certainement, mais.
Ah, c'est étonnant.
Parce que tu. Ouais, et donc ils l'ont pas géré au niveau du. Mais bon, d'accord. Dernière question sur le scénario. Là encore, sans spoiler, le 3 était quand même. Enfin, le 1 et le 2, il y avait de l'aveu des développeurs. Ils voulaient pas de scénario, ils voulaient pas d'histoire. Le 3, c'était. Alors, je dis pas qu'il y a pas d'histoire dans Diablo, hein, mais c'est pas ça leur focus. Le 3, le scénario était catastrophique. Vraiment, enfin, malgré tout l'amour que je porte au jeu, il y avait rien à sauver à ce niveau, et même le Reaper of Souls, je le trouvais pas incroyable à ce niveau-là.
Oh, c'est dur.
Bon, le scénario de qui veut venir tuer tout le monde, mon Dieu, c'est pas dramatique, mais enfin, ça brille pas par son originalité, on va dire. Mais là, j'ai entendu de bonnes choses sur le scénario. Est-ce que toi aussi, tu as été agréablement surpris, peut-être?
Alors le scénario est je trouve beaucoup, du même niveau que Diablo 1 et 2. Donc t'as un gros méchant, tu dois l'arrêter, il t'arrive des trucs, ça va pas beaucoup plus loin, mais je trouve qu'il y a vraiment un effort énorme qui a été mis dans la mise en scène. On a vraiment des pour la première fois, on a des cinématiques avec ton personnage qui agit directement dans le jeu, et ça c'est plutôt cool. Et vraiment, il y a un effort de voilà, il y a des cinématiques. C'est la première fois qu'on a, avec le moteur du jeu, c'est la première fois qu'on voyait ça dans un Diablo où c'était que des dialogues de loin, puis après t'as les cinématiques en CGI. Donc là-dessus, t'as vraiment un effort qui a été fait au niveau du scénario. Après, le scénario en lui-même, entre nous, ça reste très classique, mais c'est efficace. Il est surtout porté par le personnage de Lilith, hein, qui est un petit peu au centre du jeu et qui a un charisme assez incroyable, et il mise tout là-dessus forcément. Et donc le scénario, ça se suit, c'est plutôt cool, ça révolutionne pas la licence, ça révolutionne pas le jeu vidéo dans son ensemble, mais il y a quelque chose. Mais le seul truc qui est un tout petit peu dommage, c'est que bah, forcément, avec cet aspect très ouvert, cet aspect très MMO, la quête principale, elle fait un petit peu side quest, un petit peu plus travaillé. Et ça, c'est un tout petit peu dommage parce que forcément, maintenant qu'on est plus lié au scénario dans la progression même du jeu, bah ça perd un peu en rythme. Donc des fois, tu vas faire une quête de scénario, après tu vas faire des donjons pendant 10-15 heures à t'amuser avec tes potes, tu reviens pour la quête suivante, t'as complètement tout oublié de ce qui s'était passé avant. Donc ça, c'est pour moi, c'est juste le petit truc un petit peu dommage dans la construction du jeu, quoi.
D'accord. Bon, donc plutôt très positif. Est-ce que toi, tu as entre Street Fighter et Diablo, tu as fait ton choix et tu étais à fond sur Diablo 4. Tu t'es même racheté un PC entier pour ça, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, c'est tout.
T'as eu le temps de passer du temps dessus, t'en penses quoi alors ?
Oui, alors pas beaucoup, puisqu'effectivement moi j'y joue que depuis 2 jours. Alors déjà je suis très heureuse de m'être racheté un PC pour ce jeu parce que je le trouve très beau, enfin visuellement moi j'adore. Alors c'est pas beau au sens où on pourrait l'imaginer, tu vois, avec un... du coup le nom me sort du jeu, c'est pas Starlight, c'est le jeu de Bethesda là, qui va sortir le prochain jeu.
Starfield,
merci, j'ai un gros trou de mémoire. Ce sera certainement pas le même genre de claque que Starfield. Néanmoins, je trouve que tous les effets de lumière, l'ambiance et tout, c'est vraiment très chouette. Donc rien que pour ça, je suis contente d'avoir craqué le porte-monnaie maintenant. Et du coup, moi, j'y joue en solo parce que tous mes potes ont accédé au jeu 4 jours avant moi et je ne veux pas me faire spoiler. Donc, je vais faire tranquillement la campagne en solo pour l'instant. Et puis je verrai, donc je prends mon temps, je fais tous les petits donjons. Enfin vraiment, c'est un plaisir à chaque fois, je trouve, de redécouvrir Diablo, de reparcourir sa campagne. Je trouve que l'histoire est chouette, je trouve que Lilith, enfin le chara-design défonce. Voilà, pour l'instant, je suis assez séduite, je passe un bon moment. Effectivement, l'espèce de sphérié, là, l'arbre de compétences... Je suis un petit peu dubitatif pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'au final, ça va résulter sur la même chose que dans mes précédentes expériences, c'est-à-dire que je vais monter au niveau max, je vais mettre mes petits points à droite à gauche, un peu comme j'en ai envie, et puis à la fin, j'irai voir un build sur Internet, j'appliquerai bêtement le build et j'essaierai d'aligner mon stuff avec. Quoi. Donc non, clairement, c'est plaisir de découvrir la campagne, plaisir de... découvrir l'univers, même si au final on est toujours un peu dans les mêmes clichés, hein, Diablo, si tu retrouves toujours plus ou moins les mêmes biomes. Pour l'instant, j'ai pas eu de grosse surprise là-dessus, on verra plus tard, vu que je me spoil au minimum, j'en aurai peut-être. Et puis bah, le plaisir de jouer avec les potes, parce que même si je joue en solo, je suis sur Discord avec les copains et je les entends jouer entre eux et ça a l'air cool, tu vois, j'ai hâte d'y arriver. Donc voilà, cet aspect-là, je pense qu'on va bien se marrer. Je trouve qu'ils ont apporté des petites améliorations en termes d'ergonomie pure du X qui sont plutôt bienvenues, notamment dans la gestion, excusez-moi, ça va faire très nana ce que je vais dire, mais la gestion de la garde-robe.
Tu as raison.
Et je suis tout à fait d'accord aussi.
Ouais, je trouve que c'est tout con, mais le fait que quand tu changes de stuff, tu gardes l'apparence de la garde-robe que tu avais choisie, mais c'est trop bien. Donc voilà, c'est plein de petites améliorations. Je trouve que pareil, dans la clarté des interfaces, c'est pas mal. Quand tu survoles une compétence et qu'on t'explique les détails de certaines caractéristiques, genre ça t'inflige 20% de saignement, t'as saignement qui est surligné et juste en dessous, on t'explique ce que c'est que le saignement. Je trouve que c'est lisible et voilà, donc je mange ça à petite dose parce qu'en plus je suis en plein milieu de l'organisation de mon déménagement, là je déménage samedi, donc c'est pas des conditions hyper favorables pour poncer le jeu, mais du coup bah raison de plus pour prendre mon temps et voilà quoi, c'est le plaisir, enfin moi Diablo ça fait partie de mes franchises de cœur et voilà, je suis peut-être pas très neutre, mais en tout cas pour l'instant je m'amuse.
Écoute, franchement on a quand même énormément de retours positifs, donc j'ai hâte de m'y mettre aussi. Une petite note pour mentionner quand même le fait que tous les monstres, tous les ennemis, tous les mobs soient adaptés, soient au niveau qui s'adapte au vôtre, ça permet aussi dans le design du jeu d'avoir différentes personnes de différents niveaux qui se retrouvent pour jouer au même endroit, des potes qui ont justement différents niveaux de puissance. bah, si t'arrives et que t'es effectivement niveau 1 et que tout le monde est niveau 40, tu vas rien faire du tout. Là, tu peux contribuer quand même, jouer avec tes amis, etc., etc. Donc,
ouais, c'est à noter aussi. Surtout, tu vois, là-bas, typiquement, moi, j'ai déjà mes potes qui m'ont dit qu'en solo, il y a certains boss qui pouvaient être un peu compliqués. Bah, je sais que je pourrais les inviter et qu'il n'y aura pas l'effet du le pote surstuffé qui arrive, qui met deux coups au boss et bye-bye.
C'est ça. Exactement.
Ça retire pas tout le plaisir de jeu. Donc ça, je trouve que c'est quand même plutôt bienvenu. Après, forcément, t'entends les gens qui disent « Oui, mais du coup, tu peux pas te faire PL. » Là, j'entends déjà des potes qui
power
disent
«
Alors, si... » Ouais, pardon, tu peux quand même... T'as quand même des astuces pour te faire power leveler. Et moi, je trouve pas que ce soit un mal qu'on puisse pas se faire PL, parce que, alors, encore une fois, c'est une expérience très personnelle, mais effectivement, te faire peiner par un personnage qui prend un barbare, qui fait du tourbilol, qui nettoie les cartes, et toi, t'es juste derrière à le suivre, en vrai, il n'y a pas de plaisir, quoi, tu vois, il n'y a vraiment aucun plaisir à faire ça. Enfin, moi, je trouve. Donc, s'ils ont trouvé une façon un peu plus équilibrée de faire du PL, c'est peut-être pas un mal en soi, quoi.
Non, et puis enfin, le power leveling, c'est pas un truc qui est dans le concept des jeux généralement, et tu peux toujours trouver des moyens, mais c'est surtout quand tu veux monter une autre classe, t'as pas envie de te refaire tout le truc, ok, on peut le prendre, mais bon, à la limite, c'est un autre problème et c'est un choix effectivement à faire. Moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est la gestion du endgame, mais il est encore un peu tôt pour savoir comment ça fonctionnera, si ça fonctionnera bien ou pas. Bref. Voilà pour Diablo 4. Donc,
juste un dernier truc sur Diablo 4, mais qui est pas du tout lié au jeu en lui-même. Il faut quand même signaler que c'est un jeu qui arrive à une période charnière dans l'histoire de Blizzard.
Ouais.
On sait qu'il y a eu pas mal d'histoires, on sait qu'il y a eu des jeux qui étaient pas top ces dernières années. Hein, on pense à Diablo Immortal, Overwatch 2 ou même à Warcraft 3. Et là ils arrivent à prouver en fait qu'ils savent encore faire des jeux entre guillemets à l'ancienne. Qu'ils ont encore gardé leur identité, leur savoir-faire, et c'était un petit peu le jeu de la dernière chance. Moi, je le redoutais beaucoup pour ça, Diablo 4. Et là-dessus, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de renaissance de Blizzard, mais ils en ont encore sous le capot. Et ça fait quand même un petit peu plaisir.
Et puis, comme on disait tout à l'heure, ils montrent qu'ils apprennent de leurs erreurs. On parle des erreurs techniques, mais aussi, enfin, tu vois, l'écueil du lancement de Diablo 3, ça avait été aussi sa place de marché. Là, on n'a plus ça. Moi, il y avait quelque chose qui me faisait peur, c'était l'accès payant aux saisons. Et en fait, j'avais mal compris, les saisons seront accessibles gratuitement. Tu payes si tu veux obtenir les cosmétiques. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'a priori, tout ce qui est payant dans Diablo n'est que lié à du cosmétique. Et quelque part, ça m'a rassuré aussi. Alors, ça ne veut pas dire que je paierai pour autant, mais quelque part, ça me rassure sur le fait que ces éléments payants qu'on nous a annoncés un peu tardivement par rapport à la sortie du jeu, voilà, ça soigne un petit peu mon petit cœur de savoir que ça ne va pas donner davantage in-game autre que visuel aux autres joueurs, quoi.
Après, à eux de ne pas faire n'importe quoi avec, quoi. Mais pour l'instant, on va rester optimiste.
S'il faut payer pour une monture licorne, je reviendrai peut-être sur ce que je viens de dire.
Oui, ça va être une monture licorne décharnée, tu sais, avec les yeux justement injectés de sang et la licorne, la corne, ça sera genre un os taillé, ensanglanté, tout ça, ça sera parfait. Bah écoutez, moi j'ai hâte de me mettre à Diablo également. J'y viendrai sans doute un jour, mais j'ai eu peu de temps et j'ai décidé de consacrer ce peu de temps que j'avais à un autre jeu. J'ai décidé de le consacrer à Street Fighter 6. Street Fighter 6 qui est du coup sorti la semaine dernière, hein, on en parlait déjà. Et je peux maintenant vous donner mes impressions sur le jeu complet. Alors comme je disais, j'ai pas eu énormément de temps de jeu, mais tout le temps de jeu que j'ai eu, je l'ai consacré à Street. Et vous avez pas joué hein, Street Fighter SK, je sais.
Non.
T'es pas client. Je dois avouer que... Alors, je vais pas parler du cœur du jeu parce qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises et vous savez, je pense que il y a aucun doute sur le fait que il est hyper convaincant. Le gameplay est excellent. Et tout le monde est d'accord sur ce point. Donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Par contre, j'aimerais parler de deux éléments, des deux autres modes de jeu, en fait. Vous savez que le jeu est divisé en Battle Hub, enfin World Tour, qui est le mode solo, Battle Hub, qui est la salle d'arcade virtuelle, et Fighting Ground, qui est le mode classique. C'est un petit peu Street Fighter 6 classique, enfin un Street Fighter classique, qui est entièrement tenu dans ce tiers du jeu. Donc il y a beaucoup de contenu, évidemment. Et le mode solo, le mode World Tour, était un petit peu inquiétant parce que on savait pas vraiment s'il allait être fun, agréable, sympathique ou si c'était un truc de remplissage qui est au final une perte de temps plus qu'autre chose. Vous vous souvenez que le mode World Tour, c'est ce mode où on va créer son avatar entièrement personnalisé et puis on va évoluer dans la ville de Metro City et rencontrer des combattants légendaires qui sont les combattants du jeu Street Fighter 6 et on va apprendre leurs coups, on va pouvoir combiner leurs coups pour pouvoir se faire notre propre personnage et combiner les coups de tous les persos différents, gagner des points de vie, gagner des points de force, enfin, il y a un arbre de talent, il y a plusieurs arbres de talent, etc. Les premiers retours étaient, on va dire, fun, moyen pour certains, et je suis sûr qu'il y a des gens, enfin, il y a clairement des gens qui l'aiment bien, des gens qui l'aiment pas. Moi, je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris, et j'ai eu pas mal de retours de gens qui disent qu'en fait, ils s'amusent bien sur ce mode bizarre et inhabituel pour un jeu de combat. Et au final, ça, pour moi en tout cas, ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le trouver chiant. Et il faut avouer que dans une tradition japonaise de game design, les premières heures, allez, la première heure, c'est un petit peu chiant quand même, parce qu'ils t'apprennent tout, ils mettent du temps pour être sûr que t'as bien compris, pour se déplacer c'est comme ça, là on peut parler à tel personnage, là pour te battre avec un perso que tu croises, c'est comme ça que tu fais. Et au final, c'est un petit peu, ça met du temps à se mettre en place. Mais c'est le cas dans beaucoup de jeux japonais. Hein. Ce rythme est souvent présent dans les jeux japonais. Mais quand on commence à avoir, quand on va trouver Chun-Li, le premier personnage en plus de Luke qu'on rencontre, bah on commence à faire les coups spéciaux différents. On a différents styles de jeu qu'on peut adopter. Et ça commence à fonctionner. Et je dois dire que c'est fun, quoi. Vraiment, j'y suis pas allé en me disant « Ouais, ça va être super fun, ça va être cool. » Pas du tout. Je me suis dit « On va voir ce que ça donne. » Et en fait, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt pas mal. Le monde est complètement ridicule. C'est une ville dans laquelle tout le monde aime se battre. Tu croises le vendeur de tacos, tu fais « Vas-y, on se bat, ok, on se tape dessus. » Il y a des gens qui vont te pourchasser pour te taper dessus. Il y a un mec qui va au boulot en costard-cravate, tu dis « on se tape ?»« Ouais, on se tape !»« Ok, allez, on y va !» C'est débile. Et surtout, le jeu sait qu'il est débile et joue de ça, en fait. C'est un petit peu un humour de « on se prend pas au sérieux ».
Ça fait un peu penser à l'humour Yakuza, non ?
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Beaucoup de gens comparent à Yakuza. Et alors, enfin, clairement, Yakuza, c'est un jeu qui est beaucoup plus abouti, hein, qui est complètement consacré à ce mode de jeu. Mais il y a un petit peu d'Yakuza là-dedans, un petit peu. Il y a une quête, par exemple, je vais pas vous la spoiler, parce que, enfin, bon, allez, je vais vous raconter, c'est une quête parmi tous les... Non, je vais pas vous la raconter, c'était juste marrant, ça m'a fait éclater de rire, je vais pas vous la raconter, mais c'est vraiment, il y a plein d'exemples de... je joue au jeu et je me marre, je rigole, et je m'y attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que le jeu... soit drôle, c'est pas qu'on s'esclave toutes les minutes, hein, ça reste un jeu de combat, mais je m'attendais pas à ce que l'écriture, qui est pas folle, mais soit suffisamment consciente de ce qu'est le jeu pour que ça me fasse marrer. Au-delà de ça, à force de jouer au truc, on finit par commencer à apprendre à jouer au jeu de combat. Et moi, j'utilise dans ce mode le mode moderne qui a des coups spéciaux, les coups spéciaux sur un bouton, et on n'a pas besoin de faire les manipulations complexes. Et en fait, c'est pas que en jouant, c'est un truc qui prend son temps Mais au bout de quelques heures, tu commences à comprendre les mécaniques et à te dire, OK, tel type de coup, ça fait tel type de truc. Et ça peut pas arriver en 10 minutes, en fait. C'est comme, je sais pas moi, enfin, les jeux de combat existent depuis 30 ans. Et même quand ils venaient d'arriver, on mettait des mois, des années à apprendre les jeux de combat. Je me souviens d'une expérience dans une salle d'arcade. On était complètement, on était avec des potes en train de jouer à Street Fighter quelques mois après la sortie, et il y avait un mec qui nous battait en boucle tous les rounds parce qu'il faisait un truc incroyable, il allait en arrière pour parer. Et il nous a battus, mais toute l'après-midi, parce qu'il réussissait à parer, on savait pas qu'il fallait projeter. Et donc ce que je veux dire, c'est que même pour apprendre les bases des jeux de combat, à l'époque, ça prenait des mois, parce qu'on n'avait pas ni de guide, ni de personne pour nous expliquer, enfin ça prenait des mois et des mois. Là, en quelques heures, tu commences à comprendre, OK, alors là, il faut que je fasse ça, il t'envoie des ennemis qui vont faire plutôt tel type de truc pour te forcer à utiliser tel coup, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que au bout de 5, 10 heures de ce petit jeu un petit peu débile, bah, tu commences à dire, OK, je maîtrise ce truc, là, je vais faire tel truc, là, je vais plutôt utiliser tel type de technique contre tel type d'attaque. Enfin, ça finit par venir. Donc, cette mission de ce mode, qui est évidemment là pour apprendre aux joueurs super débutants à maîtriser les bases du jeu de combat, je pense conviennent, enfin, ont l'air de fonctionner aussi. Je continuerai à jouer et puis je verrai où on en est au bout d'un moment.
Donc, une petite question un peu de Béotien, c'est vraiment un mode solo complet construit où tu peux acheter le jeu juste pour ça, ou c'est vraiment juste un petit tuto un peu déguisé qui t'apprend à te battre, ou on est vraiment sur un jeu solo, en fait?
On est sur un jeu solo complet que je ne recommanderais pas. Je vais pas dire vous n'achetez pas Street Fighter juste pour ce mode, hein, vous serez déçus. C'est pas suffisamment cool pour justifier l'achat d'un jeu complet. Mais par contre, c'est un jeu complet. Il y a 20-30 heures pour finir la campagne et tu peux continuer à jouer pour maîtriser les coups des autres maîtres que tu peux rencontrer. Le fait de rencontrer les maîtres et d'avoir un petit peu leurs histoires, c'est marrant, quoi. Ces personnages, les Chun-Li, les Ryu, même les nouveaux, les Marissa, les Jamie, etc. C'est marrant de les rencontrer et puis de leur parler dans un contexte qui est pas juste deux bulles à la fin d'un combat, quoi. Leur parler, leur dire, alors toi, qu'est-ce que tu fais? Ryu, il utilise pas trop les téléphones portables, tu vois. C'est marrant. Et c'est cool de vivre dans un monde ouvert où on peut aller rencontrer ces personnages-là et faire des petites missions pour eux, devenir potes. Il y a un truc à la Persona où tu peux gagner des niveaux de proximité, d'intimité avec les persos, et donc ils te donnent plus de leurs coups, ils t'apprennent plus de leurs coups quand tu progresses. Et bien sûr, le moyen pour progresser ces niveaux, c'est de se battre dans la rue avec des randoms en utilisant leur style de combat ou en battant des gens qui utilisent leur style de combat. Il y a plein de trucs dans ce mode. Il y a des objets que tu peux gagner, tu peux voir chaque personne quels objets elle va te donner, donc choisir si tu vas te battre avec elle ou pas pour choper l'objet, etc., etc. Donc, bref, pour ce mode-là, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est plutôt marrant, et je suis surpris du temps que je passe dedans et du plaisir que j'y prends. Je veux parler un petit peu du Battle Hub aussi. Le Battle Hub, c'est donc cette salle d'arcade virtuelle qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est un fantasme des développeurs japonais de recréer le plaisir de la salle d'arcade dans un jeu de combat. Il y a eu plein de tentatives, toutes se sont plantées, et là, de mes expériences que j'avais eues dans la bêta, je trouvais que ça fonctionnait. Et ben, j'y suis retourné, et franchement, je retrouve le plaisir que j'avais à aller dans les salles d'arcade au Japon. C'était le pays de l'arcade, hein, vous le savez, j'ai vécu au Japon quelques années. J'allais dans les salles d'arcade, je m'amusais vraiment juste à aller mettre une pièce et me battre contre des gens au hasard qui étaient là dans la salle. Alors, parfois, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Parfois, ils étaient beaucoup moins forts que moi. On va dire que le premier cas était beaucoup plus fréquent que le second. Mais je retrouve ça dans le jeu, c'est-à-dire que je vais dans cette salle d'arcade, le Battle Hub, je choisis un serveur, je me balade, je regarde des gens qui sont en train de se battre, on peut mettre la pièce, C'est-à-dire que on réserve son tour pour jouer contre quelqu'un qui est en train de faire un match. On peut choisir, bah, je me mets du côté droit ou du côté gauche. Par exemple, il y a une, on voit au-dessus des bornes les combattants, les persos qui sont en train d'être joués, et on voit s'il y a quelqu'un qui a une série de victoires. Donc, si tu vois quelqu'un qui a 5 victoires d'affilée, tu te dis ah ok, je vais le choper, lui, je vais le démonter. Tu mets ta pièce pour prendre le tour de l'autre côté et tu vas essayer de battre la personne qui a ses 5 victoires d'affilée. Tu peux simplement te poser, puis il y a quelqu'un qui vient et si c'est quelqu'un qui a un niveau bien moins bon que le tien, bah il va essayer de te battre et on s'en fout du mode de combat casual ou ranked, là, c'est pas ça qui est important. C'est juste, bah, y a un type qui joue un perso contre lequel tu veux t'entraîner ou juste que tu veux voir, bah, tu vas y aller. Et s'il n'arrive pas à te battre, il va essayer 2, 3, 4, 5 fois. Et il y a cette relation, tu parlais tout à l'heure, Pierre, des amis de 20 minutes. Les amis, ça fait un petit peu Fight Club, ça, les amis jetables dans les avions. Des amis de 20 minutes quand tu es en train de jouer en multi dans Diablo. Bah là, t'as cette relation qui s'installe, ah, t'essayes de me battre, ok, tu commences à voir ce que je fais, tu progresses un petit peu sur 2, 3, 4, 5 combats, t'as réussi à prendre un round, bravo, bien joué. Et pareil, à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui joue bien mieux que toi, tu dis, ok, je vais essayer de le battre, ou même je vais essayer de lui prendre un round. Et tu essayes 2, 3, 4, 5, 10 combats. Moi, je suis tombé sur des persos. Il y avait un Zangief qui jouait en mode moderne. Donc Zangief, vous savez, c'est le catcheur qui vous attrape et qui fait des 360 dans les airs et qui vous écrase la tête par terre. Et pour faire ça, il faut faire un mouvement qui est sans doute le mouvement le plus complexe du jeu, qui est un 360. Ben, il joue en mode moderne, c'est beaucoup plus facile. T'appuies sur un bouton, ça le fait. Et il me défonçait. Il m'a défoncé pendant 2, 3, 4 combats. J'ai fini par réussir à lui prendre quelques combats et à remonter. Et au final, j'ai réussi à gagner sur notre best of 11, je sais pas. Et j'ai réussi à remonter au-dessus. C'était une expérience qui a duré, je sais pas, une demi-heure. Mais c'était le fun de la salle d'arcade et ça fonctionnait totalement. En plus, il y a des petits trucs en plus. Il y a des salles d'arcade. Si c'est pas bien indiqué, mais il y a plein d'éléments importants dans le jeu. Il y a des serveurs qui sont réservés aux gens qui n'ont jamais fait de compétitif, de ranked avec leur perso. Si vous allez en choisissant le serveur, vous allez vers le haut plutôt que vers le bas, ou alors ça peut vous être réservé si vous choisissez le serveur genre choix rapide. Vous allez vers le haut, ben il y a les serveurs avec une icône de petit oisillon à côté. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de ranked avec ce perso, avec le perso que vous jouez. Donc c'est un petit peu moins. Pardon ?
C'est mignon, une icône de petit oisillon.
Bah oui. Il y a des trucs avec vous pouvez voir les MVP, les gens qui jouent vraiment bien. Vous pouvez voir, il y a quelqu'un qui a une série de 20 ou 30 victoires. Vous pouvez aller sur son serveur, essayer de vous battre contre lui. Il y a des bornes qui brillent par moment. Et bah, quand ils brillent, ça va vous donner un petit peu de bonus parce que vous avez sur le perso, plus vous le jouez, plus vous allez débloquer des personnalisations de sa carte de combattant. Et il y a des bornes, si vous jouez sur cette borne, ça va vous en donner plus. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a même un petit stand de DJ où vous pouvez faire de la musique en haut de la salle d'arcade. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça et je suis complètement séduit par ce mode-là alors que, je vous disais, ça n'avait jamais fonctionné. Donc, même si on n'est pas un joueur qui veut progresser énormément, on peut aller dans la salle. Alors, si vous êtes super méga débutant, vous allez vous faire défoncer tout le temps, c'est pas forcément marrant, mais ça permet de progresser aussi. Mais du coup, je pense que ce mode, je vais y passer beaucoup de temps et j'aurais pas cru. Et le dernier mode traditionnel avec l'entraînement, combat, contre un, etc., il est super bien fait aussi. Il y a une quantité d'options dans le mode entraînement pour pouvoir bien faire ce qu'on veut. Il y a un mode arcade classique où on va faire 5 ou 10 combats pour voir l'histoire, je mets des guillemets, de chaque perso. Enfin, incroyable ce jeu et la réussite est présente, je trouve, à tous les niveaux, à certains, à divers degrés, mais vraiment à tous les niveaux. Tout ce qu'ils ont fait fonctionne. Donc, moi, je vais y passer beaucoup de temps, quoi. Donc voilà pour Street Fighter 6. On fera, je vais peut-être faire un petit club dans Street Fighter 6. Il y a une petite communauté sur le Discord, dans le forum Street Fighter, avec des gens qui essayent de progresser, des super débutants, et j'essaye de leur donner des conseils. On fera un club, je pense, pour que je puisse aller voir vos replays. Et en voyant vos replays, je pourrais voir, parce que moi, je suis pas très bon, hein, j'ai été placé Silver, je crois, avec mon perso, au Silver, et je me suis fait massacrer 20 combats après mes matchs de placement. C'était spectaculaire. Mais du coup, les vrais débutants, je peux leur donner des conseils. Donc, je ferai un club, comme ça, je pourrais aller voir vos replays et je pourrais voir, je pourrais vous donner des, vous dire ce qu'il faut faire un petit peu plus, un petit peu moins. Ça va être marrant. Il y a des gens qui essayent, qui sont vraiment débutants dans le Discord. Donc, si vous débutez sur Street Fighter, si les démons des enfers vous intéressent pas trop, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et jouer à Street Fighter avec nous. Donc voilà pour nos jeux du moment. Je crois que c'est tout, hein. Street et Diablo, ça nous occupe déjà beaucoup. Donc on va passer à la dernière partie de l'émission avec quelques petites news qu'on va traiter rapidement. Il y a un nouveau jeu One Two Switch. Vous êtes hyper content, non?
Ah bah oui.
Everybody One Two Switch. Alors c'est marrant, ils ont annoncé le jeu. Il y a littéralement deux images du jeu et c'est tout. Mais enfin, même pas du jeu lui-même. Il y a genre un poster et il sort le 30 juin. Il n'y a pas une image du jeu. Il y a des téléphones portables, donc visiblement, on peut jouer avec son portable. bon, bref, One Two Switch, quoi. Le jeu qui sort de nulle part. Dead Cells a vendu 10 millions de copies.
Pas oui. Mal. Oui.
Bravo. Mérité. Bravo.
Netflix a montré son catalogue de jeux de l'été, mais il commence à y avoir beaucoup de jeux dans le catalogue Netflix. Hein.
Alors ouais, moi j'ai regardé le trailer, ça m'a donné zéro envie quoi.
Ah ouais?
Ah ouais, enfin franchement, les jeux qu'ils ont mis en avant là, je me suis dit, j'ai l'impression de retourner 15 ans en arrière sur les jeux mobiles.
Je regarde. C'est un peu ça. Non mais c'est vrai, hein, c'est un peu
à
ça.
Part, j'allais dire Terraforming Mars, non, le jeu sur le Nil, Terra Nil.
Oui, il y a Terra Nil, il y a Oxenfree 2.
Oxenfree 2, d'accord. Mais le reste, là, World of Goo, je sais plus, machin.
Europe,
là,
attends,
au secours, quoi.
On a l'impression d'être en 2011, quoi, presque, vraiment.
D'accord, bon, très bien. Vous êtes décidément mécontent. Quoi d'autre? Et justement, tiens, ah oui, je vais même pas parler de la catastrophe des changements de sponsor pour le sponsoring sur Twitch. Je vais le mentionner rapidement. Twitch a voulu imposer à ses streamers de ne plus pouvoir utiliser de sponsor, mais quasiment du tout. J'exagère, mais il disait ça ne peut pas occuper plus de 3% de l'espace de votre écran. Vous pouvez pas faire des pubs préenregistrées dans votre stream. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. En gros, il voulait, à peu de choses près, rendre le sponsoring hyper compliqué, évidemment, mais tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé et ils sont venus en arrière tout de suite. Genre, oh non, merde, on s'est trompé, pardon. Parce qu'il y avait des streamers qui disaient, mais je peux pas streamer sur Twitch, quoi. Des gros streamers qui disaient, bon, bah, je me barre, je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je. c'est terminé. Et donc, évidemment, ils sont venus en arrière. Au-delà de cet incident qui va être réglé, ce qui est préoccupant, c'est la manière dont l'équipe dirigeante de Twitch envisage le produit. Et c'est pas la première fois qu'il y a des décisions problématiques qui sont prises. Et à force, ça commence à plus être anecdotique, quoi. Donc, on verra s'ils réussissent à regagner le cœur de leurs streamers à la TwitchCon. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément d'alternatives sérieuses. Enfin, il y a YouTube, mais en streaming, c'est pas ça. Il y a Kick qui est suspect, on va dire. Mais les gens commencent à se dire, bon, Twitch, qu'est-ce que l'équipe dirigeante comprend son produit, quoi? C'est surtout ça. Alors, qui est surpris? On parle d'Amazon, dit Malo dans la chatroom. Bah, oui et non. Enfin, Amazon, c'est l'entité qui possède Twitch, mais ça veut pas dire qu'ils vont forcément avoir des abrutis aux commandes, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée que, parce que c'est Amazon derrière, c'est forcément des mauvaises décisions. On a Google derrière YouTube, et YouTube prend énormément de bonnes décisions, et en tout cas, essaye de mettre en avant ses créateurs et de favoriser ses créateurs autant que possible, même s'il y a des couacs ici et là. On n'est pas obligé de prendre des mauvaises décisions qui font du tort à l'écosystème en général, parce que c'est Amazon derrière. Moi, je suis pas... Je suis pas. Pour moi, il y a un souci qui est plus grave, qui est que Twitch veut faire de l'argent et on ne sait pas si Twitch fait de l'argent. Et je crains que le problème, c'est que Twitch ne fait pas d'argent et que au bout d'un moment, Amazon dise bah, :« Les gars, vous êtes gentils, mais il faut faire des sous, quoi. On peut pas juste perdre. On ne sait pas si Twitch est bénéficiaire et je crains que ça soit pas le cas. » Bref, dernière chose, c'est dans quelques jours, ce soir, on a le Summer Game Fest, la conférence, et dans quelques jours, il y a la conférence Xbox, pour laquelle ils jouent hyper gros, parce qu'après, surtout après la déception de Redfall, ils ne peuvent pas se rater, non seulement sur la présentation de Starfield, évidemment, mais en plus sur les jeux qu'ils vont proposer dans les mois et les années à venir. Et Aaron Greenberg a dit, non mais vous inquiétez pas, on n'aura pas que des cinématiques, on va avoir du gameplay, vous allez être contents, ça va être cool, donc on verra. Mais surtout, ce soir, il y a la Summer Game Fest, la présentation, et j'aimerais, piège un petit peu là, j'aimerais que vous me fassiez des prédictions pour ce qui va se passer à la Summer Game Fest et à la conférence de Microsoft. On pourrait aussi parler du fait qu'il va y avoir une conférence Capcom le 12, je peux faire des prédictions pour ça si vous voulez. Prédiction pour la conférence Capcom, à mon avis, un season pass pour Street Fighter 6 avec des costumes qu'on peut choper à la fin du season pass qui vont faire hurler tout le monde. Ça, c'est ma prédiction. Et plein de Resident Evil et de Monster Hunter et tout ça, et Exoprimal. Enfin. Prédiction Summer Game Fest, est-ce que vous en avez, ou Xbox, ou comme vous voulez? J'en avais vaguement parlé à Pierre d'abord, donc on va proposer à Pierre de nous répondre en premier, et Scott a un petit peu plus de temps
Donc pour le Summer Game Fest, prédiction, c'est toujours dur de jouer au jeu des prédictions parce qu'on va ressortir ça deux jours après, totalement planté.
Ce soir
directement, mais si je pense qu'il y avait une chose entre guillemets sûre, je me risque un peu là, ça serait peut-être qu'on voit un petit peu plus de Death Stranding 2. Là, je prends pas trop de risques, mais
que,
ce soir,
que
j'espère.
Que Hideo Kojima vienne dire bonjour à Jeff Keighley, effectivement, il serait surprenant que ça soit pas le cas.
Qu'il soit juste là, au moins à parler du jeu. Après, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense que s'il y a un moment dans l'année où il va en parler, c'est ce soir. Après, pour la conférence Xbox, moi j'attends surtout, ça fait 3-4 ans qu'ils nous disent oui, on arrive, on est là. J'aimerais bien qu'ils arrivent parce que ça fait un moment qu'on les attend quand même. Et là, j'espère qu'on va voir, comme tu dis, on va avoir du vrai gameplay. Donc j'espère qu'on va avoir du Avowed. À mon anglais, pardon, tu m'as compris, on va avoir du Avowed.
Avowed,
le jeu, le spin-off de Pillars of Eternity, un truc qui à mon sens un peu risqué pour un gros triple A, mais qui peut attirer un nouveau public vers cet univers. Et puis aussi, c'est encore peut-être un peu tôt, mais j'espère qu'on va voir un petit peu de Fable quand même depuis le temps qu'on nous en parle, parce que le trailer, le premier trailer avait été annoncé en 2020, donc ça commence à dater un peu. Donc voilà, ça c'est mes petites prédictions. Puis même pour Capcom, pourquoi pas un petit teaser de Resident Evil 9, juste un fond noir avec le titre du jeu, pour susciter l'envie et faire cramer Internet. Peut-être. Là, je prends des risques, mais pourquoi pas, si Capcom là ils sont en pleine bourre, ils ont sorti deux gros jeux début d'année. Donc après, oui, ils vont suivre leur produit, mais je les vois pas ne rien annoncer d'énorme pour ce mois de juin.
Ok, pourquoi pas. Est-ce que t'as des idées?
Oui, je vous rejoins sur Kojima. Bon, Starfield, si on pouvait encore avoir un peu à manger, moi je serais pas contre.
Il y a un Starfield direct après le Xbox Showcase samedi.
Ils ont promis une heure de gameplay, un truc comme ça. Oui, donc là on va être servi, quoi.
Super. Et pour côté RPG, si on pouvait avoir des nouvelles du FF7 remake, ça pourrait être chouette. Et puis pourquoi pas de Baldur's Gate,
le 2, quoi.
Oui, c'est ça.
Baldur's Gate.
Baldur's Gate 3 qui est en
il sort là en août, le 23 août, je crois.
Donc voilà, si on peut avoir des petites infos en plus. Et alors, moi, mon rêve, qui à mon avis, c'est une prédiction absolument perdue d'avance, si on pouvait avoir des infos sur les Sims 5, ce serait vraiment trop bien, mais j'y crois pas du tout.
Oh bah, peut-être, on disait qu'ils sont au début du développement, donc c'est peut-être pas... Mais comme il n'y a pas de conférencier...
C'est un peu
je te
tôt,
rejoins dans ton espoir parce que c'est vrai que ça fait 3-4 ans qu'ils l'ont annoncé les Sims 5 hein, enfin qu'ils ont annoncé travailler dessus.
Voilà, ça fait un an.
Quand le 4 est sorti
en 2020.
Ah oui.
Je crois hein, ça fait un moment enfin ils ont rien annoncé mais ils avaient dit oui, on travaille dessus. Ça fait un sacré bail déjà.
Ah, il serait peut-être temps, ouais.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, il me semble que ça fait 3-4 ans qu'ils en avaient. Mmh.
D'accord. Non, j'ai l'impression que c'était le temps. Time is a flat circle. moi, qu'est-ce que je peux... Alors moi, je vais vous faire rêver un petit peu, un tout petit peu. Il semble... Enfin, il n'est pas certain qu'il y aura une conférence Nintendo. Il est possible qu'il y en ait une, mais ce n'est pas certain. Et s'ils ne veulent pas faire de conférence eux-mêmes, peut-être qu'ils vont aller voir Jeff Keighley. On sait que Jeff Keighley, c'est le pote de tout le monde. Et il pourrait présenter Metroid Prime 4, enfin pendant peut-être le Summer Game Fest ou après, à leur conférence après. Il y a une page qui a été ouverte sur le store Nintendo en Angleterre qui permet aux gens de mettre leur email pour dire « Metroid Prime 4 m'intéresse », elle a été ouverte genre hier. Donc, peut-être Metroid Prime 4. J'aimerais dire, peut-être même chez Microsoft, un truc Atlus. Alors, je ne vais pas dire Persona 6, parce que là, ça ferait fondre le cerveau de tous les auditeurs. Mais il y a possiblement un Persona 5 spin-off, un truc... Ou peut-être même Persona 6, vous savez quoi ? Moi, je pense que Microsoft serait prêt à payer cher pour avoir Persona 6, maintenant qu'ils sont potes avec Atlus et qu'ils ont tous les Persona sur Xbox. Avoir un Persona 6, alors peut-être pas en exclu, parce que ce n'est pas le moment de rajouter des exclus à la plateforme quand ils essayent de choper Activision Blizzard... Mais peut-être présentation de Persona 6 chez Microsoft ? Peut-être.
Ouais,
peut-être
bon, 6. Au niveau de la prédiction Resident Evil 9, là.
Bah, Resident Evil 8, c'était ouais. Il y a quoi, 2 ans ?
C'était en 2021. Donc
C'est ça, Persona 5, c'est 2017, je crois. 2000...
Il y a si longtemps ?
Attends.
Ah bah oui, oui, oui.
Persona 5. Tu vois, time is a flat.
Oui, oui,
flat
c'est vrai. 2016. Ah, ça ne rajeunit pas tout ça.
S'il y a le Royal qui est sorti 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, mais il n'empêche. Donc, moi je dis Persona 6 peut-être. Et quoi d'autre qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'intéressant ? Oui, évidemment, je pense que Death Stranding 2, c'est acquis, enfin, c'est certain. Des trucs Ubisoft, bah, ils auront Ubisoft leur propre présentation pour nous montrer Assassin's Creed Mirage et d'autres choses. Bon, il y a plein de jeux que j'aimerais voir. Je me demande. Si, enfin, Sony va pas aller au Summer Game Fest, ils ont fait leur propre conférence, mais je me demande s'il y aura pas un truc de Microsoft, genre Microsoft qui jette un biscuit à Jeff Keighley pour dire et vous en saurez plus au Xbox Game Showcase, peut-être un jeu ou même une petite preview de Starfield. Je pense qu'on pourrait voir ça chez Microsoft, mais Avowed, oui, j'ai très envie de le voir effectivement. Moi, c'est celui que j'attendrais, un Skyrim-like, forcément, ça va me parler, quoi.
Grave.
Bah écoutez, je crois qu'on arrive... je voulais mentionner un truc que j'ai oublié de dire. J'ai chopé quelques livres de chez Third Edition, dont ce magnifique livre sur Street Fighter, sur la saga, sur Street Fighter 2, qui est une traduction du livre, d'un livre en anglais, l'histoire officieuse de Street Fighter, qui est de Matt Leon. Et cette édition First Print avec cette couverture incroyable, j'en ai chopé quelques autres. Alors j'ai même pas eu le temps de les ouvrir, mais Mémoire du jeu vidéo japonais, c'est un truc ça qui pourrait être hyper intéressant. Il y a 1992, vous savez ce qui est sorti en 1992 ? Street Fighter sur... non, c'était 91 ?
91, sur Super Nintendo.
Sur Super Nintendo. La légende Final Fantasy 1, 2, 3. Je connais peu de choses sur Final Fantasy 1, 2, 3. Bref, je me suis fait un peu plaisir. J'ai jamais acheté de bouquin chez Third. Et là, je me suis fait un petit peu plaisir. Je parlais avec Mehdi, qui me disait « Oh, il y a le livre de Street Fighter, machin. » Et je lui ai dit « Non, mais m'envoie pas, je prends pas de... » Enfin, vous savez que j'ai l'habitude de refuser les cadeaux. Et du coup, j'ai acheté moi-même, parce que ça me faisait envie depuis longtemps, et comme j'étais de passage à Paris, c'est l'occasion. Donc, ces beaux petits bébés... Si vous avez, c'est même pas, enfin c'est pas une pub, mais n'oubliez pas que Third fait plein de livres sur plein de trucs cool. Enfin, on a des intervenants qui ont écrit chez eux. Il y a du Diablo de Exerve. Il y a plein de gens qui ont écrit plein de choses. Donc, si vous voulez vous occuper pendant cet été, vous savez où vous pouvez aller. Et je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir été là pendant si longtemps. Et vous savez quoi? Comme je suis en France, il est pour moi l'heure qu'il est pour vous. Vous savez ce que ça veut dire ?
L'heure de la fin de l'émission ?
L'heure de la fin de l'émission, mais surtout, ça veut dire que je crève la dalle.
Parce ah que oui, j'osais pas le dire.
D'habitude, il est un peu plus tard, je mange avant. Et ben là, je meurs de faim. Donc, on va conclure cette émission et je vais aller manger un morceau. Faudra que j'essaye de régler un petit peu OBS quand même. Mais on va conclure cette émission. Et pour conclure, comme toujours, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver ? Pierre, Phone Android, du coup, est-ce qu'il y a un autre endroit ?
Alors, phoneandroid.com, forcément, et le site, la chaîne YouTube de PhoneAndroid, on fait plein de vidéos tests, de vidéos résumés d'actu. Vous pouvez nous retrouver là-bas, PhoneAndroid. PhoneAndr. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, PhoneAndroid, vous allez trouver.
PhoneAndroid.com, magnifique. Et toi, Escarina, où est-ce que tu es sur Internet ?
Alors, moi, je suis chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois. Je suis aussi chez Super Gamerside à l'occasion, on va dire mensuellement, sur Kiss My Geek, qui est là plutôt un site rédactionnel et non un podcast. Sinon, sur Twitter, escarina_. Et j'en profite juste pour vous dire que j'ai adoré Planet of Lana, mais vous en avez déjà parlé à la dernière émission, donc je ne rajouterai pas une couche, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce jeu. Voilà.
Très bien, Planet of Lana, dont on parlait la semaine dernière, effectivement. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Le Discord, que vous jouiez à Diablo ou à Street Fighter ou à d'autres jeux. D'ailleurs, on a des communautés très actives sur ces jeux. Vous pouvez nous rejoindre. Le lien est dans les notes de l'émission. Il y a aussi le lien vers le Twitch et vers le replay sur YouTube. Donc, vous pouvez voir tout ça dans les notes de l'émission. Et vous pouvez également devenir patriote sur patreon.com/rdvjeux. Pour soutenir cette émission, c'est le moyen. Sachez que il y a toujours des gens dont l'abonnement se termine. Donc, pour que les choses continuent à bien se passer, si vous appréciez l'émission, pensez-y. Vous pourrez nous rejoindre sur patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Si j'ai pas fait de live Street Fighter avant, ce qui est pas totalement impossible. Ciao à tous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir. Ciao.
Ciao, ciao.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.